Oui, merci à l'équipe musicale. Je trouve que c'est un beau chant. En voyant notre Sauveur nous donne le goût de vivre, cette force de vivre aussi. Est-ce que vous aimez les petits tours d'illusion? Pas dit de magie, là. J'ai dit d'illusion. Avez-vous déjà vu ce livre-là? C'est intéressant, hein? Je vais utiliser ce livre-là pour vous montrer un petit tour d'illusion. Pour aller un peu plus loin que juste l'illusion comme telle. Des fois, quand on a entendu parler de Dieu, peut-être avant notre conversion, on avait entendu parler de la Bible, et puis on considérait peut-être les Écritures comme un livre qui a rien à l'intérieur, hein, qui a rien à nous montrer, qui a rien à nous enseigner. Et puis, ça restait peut-être sur une tablette, puis on y prenait plus ou moins attention. Et puis là, à un moment donné, est arrivé un temps où peut-être que Dieu est venu parler à nos cœurs, et puis là, on s'est dit, peut-être de quoi dans les Écritures que Dieu veut me montrer. Et là, on a commencé à regarder les Écritures, puis là, on a réalisé que, hey, il y a des histoires, Dieu me révèle que bon, il m'a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la croix, il me montre qu'il s'est incarné, que Jésus a calmé la tempête. Et là, on voit que finalement, Dieu, il semble parler, il semble dire des choses. Et plus on rouvre les Écritures, plus on est intéressé à sa parole, plus on réalise que tout d'un coup, il me semble que les histoires s'adressent à nos vies. Il me semble que Dieu est en train de me parler à moi. Depuis le temps que ma Bible a traîné sur le coin, Dieu est en train de mettre de la couleur dedans. C'est intéressant de voir comment est-ce que cette application dans nos vies est vrai, c'est-à-dire que plus on rouvre les Écritures, plus la vérité se révèle à nos cœurs, plus l'Esprit de Dieu vient faire des choses dans nos vies en couleur et plus qu'en noir et blanc. Les Écritures, c'est plus qu'un livre que de pages blanches. C'est plus qu'un livre d'histoire qui nous montre toutes sortes de paroles, toutes sortes d'histoires, mais c'est un livre qui s'adresse à toi, en couleur. C'est intéressant, un petit tour d'illusion, hein? C'est quoi le trait? Je vous le dirai pas. Mais vous savez, j'aimerais juste prendre ce petit tour d'illusion pour garder ça en tête, le thème de l'illusion, de ce qu'on voit des fois, et puis on se dit, oui, il me semble qu'il y a de quoi qui marche pas. Je vous posais tantôt la question, est-ce que vous aimez ça? Les petits tours d'illusion, bien souvent, ça nous impressionne, puis c'est intéressant. Mais aimez-vous ça, vous faire illusionner, par exemple, par différentes sphères de notre société, comme par exemple les politiciens. Ça, c'est un peu moins intéressant, hein? On aime moins ces petits tours d'illusion-là. Ou bien nos compagnies d'assurance. Quelle confiance est-ce que l'on a à nos compagnies d'assurance? Je suis pas en train de donner des verdicts positifs ou négatifs, là, OK? Je suis en train de poser la question, est-ce qu'on aime se faire illusionner? Quelle confiance est-ce que l'on porte aux pharmacies? Quelle confiance est-ce que l'on porte aux vaccins? Hein, ça a été une grande question, il n'y a pas si longtemps. Si vous payez vos choses sur Internet, là, quelle confiance vous avez à PayPal, par exemple? Hein, donnez votre numéro de carte de crédit sur Internet comme ça. Ou tout ce qui est étiqueté bio. Quelle confiance est-ce que vous avez à ça? Peut-être du bon, peut-être du moins bon. Mais l'illusion n'est jamais une chose agréable. Et jamais une chose agréable parce que ça finit que par miner notre confiance. Parce que l'illusion est un manque de transparence où quand la vérité par après se révèle, on réalise que tout d'un coup, on est désillusionné. Et que là, on réalise qu'il y avait des choses de cachées, où il y avait des choses qui n'ont pas toutes été dites. Et puis souvent, ça nous décourage. Le mensonge nous emmène à manquer de confiance. Ce que je veux qu'on se souvienne ce matin, ce qu'on va voir à travers Jacques 5. Vous pouvez déjà tourner avec moi dans Jacques 5, le verset 12. On va voir un verset ce matin. On va en avoir plus qu'un, mais on va s'arrêter sur un verset de Jacques. C'est que Dieu aime la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça, hein? Je ne surprends pas personne en disant ça. Dieu aime la vérité. Alors, on aurait pu dire, Dieu est la vérité. Ben, est, dans E-S-T, là. Pas H-A-I-T. Dieu sait la vérité. Il la sait, mais il est la vérité. Dieu, il aime la vérité. Et si Satan a bâti son empire sur le mensonge. Les derniers dimanches soirs, on a vu l'œuvre ou le travail de Satan sur notre monde. Et si Satan bâtit son empire sur le mensonge, le royaume de Dieu est fondé sur la vérité, sur Jésus-Christ. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous recherchons le royaume de Dieu et sa justice. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça qu'on recherche comme en tant qu'enfants de Dieu. On recherche son royaume puis sa justice. Puis il est tout à fait cohérent pour nous, si on est ses enfants, que si nous avons une foi authentique, que nous vivrons et que nous rechercherons aussi la vérité. Parce que Dieu aime la vérité. Je vais tourner moi aussi dans Jacques 5. Jacques 5, le verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier. Que Dieu vienne toucher nos cœurs et nos vies avec sa parole. Seigneur, on vient devant toi pour te louer et t'adorer. Comme on chantait tantôt et comme on disait, tu es un Dieu vivant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui se révèle à nous à travers ta parole. Et ce matin, on veut ouvrir ta parole et on veut, Seigneur, que tu nous la montres en couleur. Qu'à chacun d'entre nous, dans nos cœurs, avec ton esprit, que tu viennes mettre le doigt dans nos vies pour qu'on soit des enfants, tes enfants, qui sont de plus en plus fidèles, qui mettent en pratique, Seigneur, ta parole et que nos vies te glorifient. Et que ce passage de ta parole, Seigneur, vienne nous parler et qu'il continue de nous transformer. Dans le nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie ces choses. Amen. Dieu aime la vérité. On va voir des choses que l'enfant de Dieu doit faire pour que sa vie ou sa foi soit cohérente avec le fait que Dieu aime la vérité. Dieu aime la vérité et fais attention à l'influence du monde sur toi. Si je veux moi aussi aimer la vérité, agir et rechercher selon la vérité, ben je dois faire attention à l'influence du monde. Regardez la première phrase que Jacques il dit. Je vais confondre Jésus et Jacques ce matin parce que c'est presque textuellement quelque chose que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne. On va le voir tantôt. La première phrase, Jacques il commence en disant « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. » On voit encore comment Jacques il se prépare à terminer son épître. Puis il donne quelques recommandations en terminant, et d'où la déclaration et l'importance que Jacques va mettre aux paroles avant toute chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment est-ce que Jacques insistait pour parler de la langue, que c'est quelque chose que l'enfant de Dieu doit faire attention. Quelqu'un qui tient sa langue en bride est un homme qui est capable de contrôler tout son être. Dans Jacques 3, on voyait comment est-ce que la langue est, par exemple, un petit feu, un gouvernail, et comment est-ce que, finalement, elle peut influencer, diriger tout le cours de notre vie. Et là, Jacques termine avec ce verset-là en parlant des serments, en parlant de ne pas jurer ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Je dis tantôt que on doit faire à l'influence du monde sur nous. Le problème que Jacques est en train d'aborder, il n'a pas lancé cette recommandation-là au hasard en disant, en terminant, « Oh, faites attention à tout serment. » Il y avait fort probablement un problème dans l'Église où Jacques était, qui était constitué essentiellement de Juifs. Et dans ces Juifs qu'il y avait à son Église, il y avait une tradition depuis longtemps qu'il y avait parmi eux, qui était cette tradition de serment. Est-ce que Dieu est contre, on peut aborder cette question-là premièrement, est-ce que Dieu est contre les serments? Je pourrais juste citer par exemple Nombre 30, verset 3, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, il va prendre un engagement avec Dieu ou un serment pour lier par un engagement, il ne violera point sa parole et il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Dieu n'est pas contre les serments. Ce que Jacques va aborder dans ce verset-là, c'est une pratique qui a négliger justement ce commandement-là de pas violer ou de pas contrôler ou de diriger l'information ou la vérité. C'est comme si certains, et vous pouvez déjà tourner avec moi dans Matthieu 5. Gardez un doigt dans Jacques, on va revenir à notre verset. Matthieu 5, à partir du verset 33. C'est comme si, à travers le temps, certains Juifs avaient délaissé tranquillement, pas vite, le commandement de Dieu et avaient commencé à appliquer une tradition. Et là, à travers cette tradition-là, on va faire, c'est moi qui l'appelle comme ça, une échelle du sérieux du serment. Une échelle de sérieux du serment. Alors, Dieu étant le plus sérieux et le plus haut qu'on peut utiliser pour invoquer son nom, pour faire un serment, si on utilise quelque chose en dessous de Dieu, comme par exemple le ciel ou la terre ou Jérusalem ou la tête de ma mère, ben ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas en dessous de ce que Dieu, est, quelque chose que je peux utiliser pour détourner mon engagement verbal. C'est ça le problème que Jacques est en train d'aborder. Dieu entend toutes nos paroles, Dieu aime la vérité, et quel que soit l'engagement que l'on prend avec nos paroles, Dieu les entend. Qu'on ait pris son nom ou non, qu'on ait simplement dit un oui ou un non, Dieu l'a entendu, et Dieu aime la vérité, et Dieu aime que ses enfants aiment aussi la vérité. Regardez ce que Jésus dit. Là, on se trouve, on vient de lire Jacques, Jésus l'a dit avant, sur le sermon sur la montagne, et la tradition qui avait été inculquée venait même avant ce que Jésus, avant que Jésus fasse cet enseignement-là. Regardez Matthieu 5, le verset 33-35. Vous avez encore appris, d'où cette tradition qui a été donnée par les anciens, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par la tête, par ta tête, excusez, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Dieu possède toutes choses. Dieu possède le ciel, la terre, possède Jérusalem, et Dieu entend toutes nos paroles. Ce qui est en train de se passer dans l'Église à Jérusalem, où Jacques est, où il est, c'est qu'il semble y avoir une continuité de cette tradition qui se fait peut-être au sein de l'Église. Des gens qui vont faire des serments, mais qui ne vont pas tout à fait invoquer le nom de Dieu pour chercher à se détourner de ce qu'ils ont pris comme engagement. Et c'est une pratique que Jésus lui-même a confrontée. Une demi-vérité, est-ce que c'est acceptable? Un petit mensonge pieux, est-ce que c'est acceptable? Mais non, ça n'est pas. C'est pas acceptable. Non, on peut pas se détourner de, si on prend un engagement ou si on fait un serment, ben, d'abandonner ce que l'on a dit, parce que Dieu l'a entendu. Et c'est une pratique que Jésus a confrontée. C'est une pratique que Jacques est en train de confronter. Et c'est aujourd'hui une influence que nous aussi, on doit confronter. Est-ce que l'on a encore cette tradition juive d'invoquer des choses en dessous de Dieu, de l'échelle du sérieux, pour faire des serments? Non, on n'a pas cette influence-là. Mais est-ce qu'on a une influence dans notre monde qui nous encourage à mentir, à dire des demi-vérités, à avoir des paroles peut-être un peu équivoques, user un peu de duplicité, d'hypocrisie? Dis-lui que je suis pas là. Hein, on passe le téléphone. Dis-lui que je suis pas là. C'est une demi-vérité ou un demi-mensonge? Je veux pas faire le procès de personne, là. Hein, quand on arrive à la SAQ, tu as acheté une pièce ou tu l'as acheté 500 pièces, le char? Hein, quand on vient pour déclarer le montant, et puis là, que le montant qu'on se fait demander, c'est quel montant qu'on va dire? C'est-tu le montant réellement qu'on a déboursé de nos poches? c'est une influence que l'on a dans notre monde. Et encore là, comme je dis, ce n'est pas pour faire le procès de personne, mais c'est pour montrer l'influence qu'à tous les coins de rue, on est sollicité à être un peu malhonnête, à être un petit peu hypocrite, à ne pas toujours dire la vérité. Dieu aime la vérité. Dieu aime ce qui est vrai. Je disais tantôt que Satan est en train de bâtir son empire avec le mensonge. Notre société, certainement, elle a à l'intérieur beaucoup de mensonges. Le croyant d'aujourd'hui, on est encore confronté à cette même influence que les Juifs au temps de Jacques avaient de par tradition de se défiler de leurs paroles ou de leurs mensonges, ben en disant « Ouais, j'ai pas invoqué le nom de Dieu ». Mais on est encore sollicité comme ça. Notre société, dans notre société, les enfants mentent aux parents, les parents mentent aux enfants, les maris vont mentir à leurs femmes, les femmes vont mentir à leurs maris, les employés vont mentir à leurs employeurs qui, à leur tour, mentent souvent au public. Les politiciens mentent souvent pour se faire élire, continuent de mentir une fois qu'ils sont élus. Puis les citoyens mentent au gouvernement parce que le gouvernement leur mente. Ça va bien? Hein? Les éducateurs mentent, les scientifiques mentent, les membres des médias mentent. Notre société repose sur beaucoup de mensonges. Un enfant de Dieu ne devrait pas participer aux mensonges. C'est difficile, hein? J'en suis bien conscient. Un enfant de Dieu qui veut vivre une foi cohérente. Parce que c'est ça le thème dans l'épître de Jacques. C'est quoi une foi cohérente? Mais ce que je dis avoir cru, mais je le vis aussi. C'est difficile de vivre dans notre monde, dans notre société, dans la vérité, dans l'honnêteté. C'est difficile de ne pas laisser l'influence du monde constamment nous bousculer ou nous imbiber ou nous colorer de sa couleur du mensonge. Je vais juste faire quelques citations. Éphésiens 4, 25 dit « C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain parce qu'on est membres les uns des autres. » Qu'on parle selon la vérité et qu'on renonce au mensonge. J'aurais pu citer Exode 20, 16 « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Colossiens 3, 9 et 10 dit « Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » C'est quoi qui est cohérent à l'homme nouveau que je revais matin après matin? C'est la vérité qui va m'habiter, et je ne mentirai pas les uns aux autres. Proverbe 12, 22 dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Dieu aime la vérité. Dieu aime ce qui est vrai. Et on a, en tant qu'enfant de Dieu, à être vigilant à l'influence du monde sur nous. On est constamment sollicité ou influencé à mentir. Maintenant, on pourrait poser une question pratique. Est-ce qu'on ne devrait pas jamais jurer? Est-ce qu'il n'y a pas des circonstances particulières où on ne pourrait pas faire un serment? Levez donc toute la main gauche. Je ne vous ferai pas jurer absolument sa main droite. Levez la main gauche, juste pour le plaisir. OK? Je vois plusieurs qui ont une alliance, hein, qui semblent avoir fait une déclaration officielle devant qui? Devant Dieu et les hommes. Hein, vous avez fait une déclaration de, vous en souvenez-vous? Trois mots. Oui, je le veux. C'est ça. Vous avez fait cette déclaration-là devant Dieu et vous avez pris Dieu à témoin, vous avez pris les hommes à témoin. Oui, je le veux. Mais c'est correct. C'est correct. Vous avez fait cette déclaration-là. Par exemple, vous êtes convoqué en cour et on vous demande de jurer de dire la vérité. Bien, est-ce qu'un enfant peut jurer, un enfant de Dieu peut jurer de dire la vérité? Mais oui. Mais le problème qu'il y avait au temps de Jacques, qui est en train de confronter, que Jésus est en train de confronter, c'est d'utiliser un serment qui semble ne pas utiliser le nom de Dieu, juste un petit peu en dessous, pour que finalement, éventuellement, quand ça se tourne à mon préjudice, bien, je m'en détourne, puis je m'en défile, puis je fais pas ce que j'ai dit que j'allais faire, ou j'ai pas réellement fait ce que j'ai fait, parce que j'ai pas tout à fait juré. C'est ça le problème. De dire la vérité solennellement, c'est bien. Paul, il disait, 2 Corinthiens 1, 23, « Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Je n'explique pas le contexte, mais je veux juste citer que Paul lui-même a pris Dieu à témoin comme serment et en disant ce que je vous dis, c'est vrai. Dieu aime la vérité et Dieu veut qu'on fasse attention à l'influence du monde sur nos vies. C'est la première chose que Jacques confrontait. Revenez avec moi dans Jacques 5, le verset 12. « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. » Cherchez pas à vous détourner. Cherchez pas à vous défiler de ces serments que vous avez faits. Aime la vérité comme Dieu aime la vérité. Et la deuxième chose qu'on va voir, Dieu aime la vérité et développe un témoignage tel que ta parole suffit. Développe un témoignage pour faire en sorte que simplement ta parole suffit et que les gens vont y accorder beaucoup de crédibilité parce que tu as un témoignage cohérent. Jésus disait la même chose tantôt, on va reciter Jacques, « Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non. » Ça veut dire quoi ça? Y avez-vous déjà pensé? Que mon oui soit oui, que mon non soit non. Que ce que je dis, ça soit la réalité. Que si je dis oui, c'est parce que c'est oui. Que si je dis non, c'est parce que c'est non. Un témoignage de ce que je dis conforme à la réalité. Dieu veut que je développe un témoignage tel que ma parole suffit. Si on a à se garder de l'influence du monde sur nous, il y a une influence à laquelle on doit se coller, et c'est celle de Dieu. Quel privilège que l'on a que d'avoir un Dieu de parole, un Père de parole. Notre Père céleste est de parole. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Ce qu'il dit, il va le faire, il le fait. C'est pour ça qu'on peut appeler Dieu notre rocher, notre forteresse, notre haute retraite, parce qu'on peut s'appuyer sur lui, puis être en sécurité, puis être sûr qu'il est fidèle et qu'il ne sera jamais ébranlé, et qu'il ne va pas nous ébranler parce qu'il va changer de décision. Quand Dieu a dit que la lumière soit, mais il l'a créé, la lumière. Il n'a pas simplement dit, « Hey, ce serait bien d'avoir de la lumière ici. » Que la lumière soit, puis il l'a créé, la lumière. Quand Dieu a dit à Noé que le déluge s'en venait, le déluge est vraiment arrivé. Même si personne sur la terre le croyait, quand Dieu a fermé la porte, les gens n'ont plus le choix de le croire. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il lui donnerait un fils, il lui a vraiment donné un fils. Quand Dieu a dit qu'il enverrait un sauveur, il a vraiment envoyé un sauveur. Quand Dieu a dit qu'il va revenir, il va revenir. Dieu est un Dieu de parole. Son témoignage nous montre qu'il est un Dieu de parole. Et ça, c'est l'influence que le Père veut avoir sur ses enfants, que Dieu veut avoir sur vous. Dieu veut vous teinter de cette attitude d'amour de la vérité et d'avoir un témoignage que nos paroles suffisent. On peut comprendre que ça tient à cœur que ses enfants prennent exemple sur lui, parce que lui-même est comme ça. On peut comprendre que ça tenait à cœur que Jésus donne cet enseignement-là sur la montagne, parce qu'il voulait que ceux qui allaient croire en lui, mais aient ce témoignage-là aussi, que ton oui soit oui, que ton non soit non. On peut comprendre que Dieu l'a répété dans l'épître de Jacques, parce que ça lui tient à cœur que ses enfants aient ce type de témoignage-là aussi. Les enfants de Dieu devraient être des gens de parole. À un moment donné, j'avais besoin de mon voisin d'en face, parce qu'il y avait une grande remorque. J'ai demandé un service, il pouvait m'aider à venir chercher de quoi. Et puis, en fait, c'était un de ses employés. Puis, j'avais demandé le service, quelque chose comme la veille, mettons un jeudi. Puis, demain soir, tu pourrais-tu venir? Puis, il a dit, ouais, je vais passer demain soir vers telle heure. Et puis, mais mon voisin, là, et ses employés, c'est de grands pécheurs. Hein? C'est des gens qui je pourrais ne pas nécessairement m'attendre à avoir une parole sur laquelle je peux compter. Puis j'en ai pas reparlé, puis savez-vous, le lendemain, à l'heure qu'il m'avait dit, il était là. Cet homme-là est un incroyant, et puis je pouvais compter sur sa parole. À combien plus forte raison les enfants de Dieu devraient avoir ce témoignage-là, puisqu'ils sont influencés par Dieu? Les enfants de Dieu devraient être des gens de parole. Et on peux même dire tant mieux. Je suis content qu'il y ait des gens dans le monde, même des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, qui soient de parole. C'est bien. Mais nous aussi, on doit l'être. Tournez avec moi rapidement dans Psaume 15. Ce que tu dis avoir fait, est-ce que tu l'as vraiment fait? Ce que tu dis que tu es en train de faire, est-ce que tu es en train de le faire? Ce que tu dis que tu vas faire, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu es de parole? Est-ce qu'on peut compter sur ton oui ou sur ton non? Est-ce que les gens peuvent compter sur ton honnêteté? Toute forme de relation qu'on entretient, on a besoin de cet élément d'honnêteté, de vérité, de confiance. Parce que cette relation-là va pouvoir s'émanciper à cause, justement, de la vérité. Et s'il y a de l'illusion, bien, on est bien conscient, chacun d'entre nous, qu'on n'aime pas se faire illusionner. Mais quand il y a la confiance à cause qu'il y a la vérité, bien, on permet de faire croître cette relation-là. Psaume 15 dit, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, celui qui pratique le péché, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point l'intérêt de son argent, il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. » À la fin du verset 4, il dit « Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. » Ça peut être tentant, des fois, de négliger pendant un instant notre témoignage parce qu'on réalise qu'on a pris un engagement qui se tourne contre nous, à notre préjudice. Un enfant de Dieu ne se rétracte point s'il prend un engagement ou fait un serment à son préjudice. « Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence, que David disait. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison, mais celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays. » Ça, c'est le témoignage que David, comme roi, dans la justice qu'il pouvait exercer, voulait avoir. Un témoignage au sein de son peuple, devant Dieu. Dire la vérité, en toutes circonstances, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Mais Dieu aime la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, on devrait avoir ce témoignage tel que notre parole suffit. Puis dire la vérité emmène les croyants à briller dans les ténèbres, dans un monde de mensonges. Dieu nous donne que d'être des lumières à cause de la vérité qu'on dit et qu'on pratique aussi. Je vais terminer avec la fin du verset Jacques 5. Dieu aime la vérité, et pour nous aussi aimer la vérité, on devrait préserver, tombez pas en bas de vos chaises, de toute façon, c'est pas la première fois que vous allez entendre ça, on devrait préserver une saine crainte de Dieu. Une saine crainte de Dieu, plutôt. On pourrait peut-être même dire une sainte crainte de Dieu. Une saine, j'ai employé le mot saine parce que l'idée, c'est pas d'avoir peur de Dieu, pour ne pas s'en approcher, puis jamais aller devant lui. Par exemple, je fais un péché, là, j'ai peur de Dieu, je m'approche plus de lui pour aller confesser mon péché. Ça serait pas une saine crainte de Dieu. Mais d'avoir une saine ou une sainte crainte de Dieu, c'est d'avoir un profond respect pour ce que Dieu est. Pourquoi est-ce qu'un athlète donne son maximum dans une partie? Il veut gagner la partie. Mais pourquoi est-ce qu'un athlète donnerait son maximum dans une pratique? Dans un entraînement. Certainement qu'un athlète, fort probablement que s'il pratique ce sport-là, c'est parce qu'il aime son sport. Et c'est probablement pour ça que pendant les entraînements, il va donner son maximum. Peut-être qu'il va donner son maximum pendant les entraînements parce qu'il aime son équipe et ses coéquipiers. Et il veut s'assurer lui-même d'être un bon athlète. Mais si vous avez déjà pratiqué un sport et vous avez déjà fait partie d'une équipe, vous savez aussi qu'il y a une forme de crainte envers le coach
qui peut vous pousser pendant les entraînements. Et de vouloir satisfaire ses exigences, de vouloir aller plus loin parce qu'il nous pousse plus loin, de ne pas vouloir le décevoir et de vouloir accomplir ce qu'il nous demande. Une crainte de son coach, c'est pas l'idée qu'on voudra plus jouer dans l'équipe, mais c'est l'idée que on va pas le traiter comme n'importe qui. Dieu, c'est pas mon pote. Oui, c'est un ami. Oui, c'est un frère. Mais Dieu reste quand même Dieu. On doit avoir une crainte du Seigneur. On doit avoir une crainte de Dieu. Regardez ce que Jacques dit à la fin du verset 12. Bon, que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. En guise de motivation contre les faux serments, Jacques souligne les conséquences qu'entraîne leur violation. Ceux qui agissent ainsi, ce qu'il avertit, ils tombent sous le jugement. Et de quel jugement est-il question? Tournez avec moi rapidement dans Matthieu 12, au verset 36. Jacques est en train d'aborder, tout au long de son épître, la foi authentique. C'est quoi la foi authentique? Et j'imagine que quelqu'un qui fait des serments à tour de bras et ne les accomplit pas et qui n'a aucune scrupule à le faire et à continuer comme ça, a fort probablement une foi qui n'est pas authentique. Et lui, il y a un jugement évidemment sur lui. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui néglige la vérité, il y a des conséquences à cela? Je crois que oui. Je crois qu'on aura à rendre compte de nos paroles. Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Dieu va demander des comptes sur nos paroles vaines, ce que Jésus vient de dire. On aura à rendre compte de nos paroles. Est-ce que la bouche ou ce qu'on dit avec la langue est important? Absolument. Et on devrait y veiller. Et c'est pourquoi que si on préserve une saine crainte de Dieu, et sachant que Dieu aime la vérité, je vais faire attention à ce que je vais dire. Je vais faire attention à dire la vérité, à ne pas mentir, à ne pas, peut-être pas m'engager trop vite si je sais que si je ne suis pas sûr d'être capable de pouvoir accomplir cet engagement-là. Paul, il disait, sans le lire, dans 2 Corinthiens 5, il parle du tribunal de Christ, où chaque croyant auront à rendre compte du bien ou du mal qu'ils auront fait dans ce corps. Et juste avant, Paul, il dit, c'est pourquoi je m'efforce de lui être agréable présentement. Parce que quand j'aurai à paraître devant le tribunal de Christ, je veux m'assurer de ce que je vais lui rendre compte, bien, que ce soit plus à mon avantage qu'à mon préjudice. Si Dieu est pour m'enlever des privilèges ou des bénédictions, les récompenses. Dans le Nouveau Testament, il y a cette expression-là qui revient. La crainte, le tremblement. On peut s'approcher de Dieu avec assurance. On doit continuer de considérer la crainte du Seigneur dans sa grandeur. Souvenez-vous tantôt qu'est-ce qu'on chantait de Dieu Tout-Puissant? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, quand on considère tous ses ouvrages, l'univers, le ciel d'azur, la forêt profonde, les océans, quand on prendrait le temps de considérer comme ce que Job a eu l'occasion de se faire enseigner par Dieu lui-même, de ce qu'il a créé, peut-être qu'on deviendrait un petit peu plus petit de nos souliers puis qu'on considérerait la grandeur de Dieu et d'apprécier encore plus la vérité et de préserver ce témoignage-là. La crainte du Seigneur est un profond respect mêlé d'admiration, une confiance respectueuse à Dieu. La crainte de l'Éternel implique la haine du mal et un éloignement par rapport au mal aussi. Philippiens, je termine sur ce passage-là, Philippiens 2 disait que Jésus s'est humilié, on l'a cité tantôt, mais Jésus a été aussi élevé à la gloire de Dieu le Père, afin que tout genou fléchisse devant lui, que toute langue confesse ce qu'il est. C'est l'attitude que le croyant devrait entretenir pour considérer comment est-ce que Dieu voit la vérité, comment est-ce qu'il la considère importante. Dieu aime la vérité et que toutes mes paroles soient vraies, honnêtes ou en cours d'accomplissement, parce que je suis en train de m'engager à les faire, c'est un défi de chaque instant. Parce qu'on est constamment influencé dans notre monde à mentir. On pourrait même dire que notre société, notre structure a beaucoup de mensonges à l'intérieur, mais c'est un défi. Dieu aime la vérité. Est-ce que tu aimes la vérité aussi? Est-ce que tu aimes Dieu pour rechercher son influence? Est-ce que tu aimes Dieu aussi pour avoir un témoignage cohérent à quand tu vas dire oui, que c'est oui? Quand tu vas dire non, c'est non. Est-ce que tu aimes Dieu et tu considères aussi la crainte que tu peux avoir devant lui à cause de sa sainteté, de sa grandeur, de son amour de la vérité? J'aimerais terminer par un mot de prière, qu'on puisse s'engager avec Dieu, qu'il puisse nous aider aussi, jour après jour, à mettre en pratique sa parole. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. Parce que si on dit des fois qu'on aime les petits tours d'illusion, on n'aime pas être trompé, Seigneur. On n'aime pas se faire dire du mensonge. On n'aime pas être confronté à l'hypocrisie. Et on peut te louer parce que toi, tu ne l'es pas. Toi, tu nous dis la vérité. Tu aimes la vérité. Seigneur, en tant que tes enfants, on veut prendre exemple sur toi aussi. On veut être influencé par toi, pas par le monde. On veut, Seigneur, avoir ce témoignage aussi que ce qui sort de notre bouche reflète la vérité, parce que tu aimes la vérité. On considère aussi, Seigneur, le jugement que tu peux même donner contre le mensonge, comme tu dis dans ta parole, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Seigneur, on sait qu'on aura à rendre compte de nos paroles. On sait qu'un jour, on aura à te rencontrer. On le sait qu'on n'a pas à douter de ton amour. On sait que toujours tu vas nous aimer, que si on est tes enfants, que toujours on sera tes enfants, que si on est tes enfants, qu'on ira au ciel avec toi pour l'éternité, mais que notre vie sur terre ne soit pas négligée par le mensonge. Parce qu'on aura à t'en rendre compte aussi. Seigneur, on t'aime, on considère ta grandeur, on considère, oui, ton amour, mais on considère tes attentes que tu as envers nous, d'être tes enfants qui vivons selon la vérité et qui disons la vérité aussi. On a besoin de ta grâce, Seigneur, jour après jour. On a besoin de toi parce que tu vois l'influence autour de nous que l'on peut avoir. Et accompagne-nous et à travers ton esprit, avec ton esprit, rappelle-nous constamment la vérité. Illumine nos pensées. Dans le nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie ces choses. Amen.